d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, dernier jour de campagne au Kosovo avant les élections législatives anticipées du 6 octobre. Si la principale préoccupation des Kosovars aujourd'hui, c'est de vivre dans un pays qui fonctionne, les questions nationales ne sont jamais loin, 20 ans après la fin de la guerre. Notre correspondant Louis Seyé nous emmène à Mitrovica. Dans cette ville, le pont sépare aujourd'hui encore Serbes et Albanais. Pour lutter contre les divisions, il y a la Rock School de Mitrovica. Présente des deux côtés, elle permet aux jeunes de jouer ensemble.
Metallica comme morceau d'étude et des adolescents très studieux, nous sommes bien à la Rock School de Mitrovica. Emir Hassani s'occupe de la formation des groupes de l'école et notamment du programme Mixed Bands, les groupes métissés.
Moi, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de ma famille, c'est sûr. Mon père était musicien, et à l'époque, on n'appelait pas ça « mixed band », car on était juste un groupe de musique normale. Et je pense que c'est le but ou l'un des principaux buts de notre école, c'est de ne pas penser à ces divisions. Il s'agit simplement de musique et d'être créatif.
Les divisions de sa ville, Emir n'aime pas trop en parler. Ce jeune prof de musique habite dans le nord de la ville, dans la partie serbe de Mitrovica. Si aujourd'hui il vient presque tous les jours dans la partie albanaise, ça n'a pas toujours été le cas.
J'ai été membre d'un mixed band pendant 4 ans, je crois. Je connaissais les gars de la partie nord, mais pas ceux du sud que j'ai rencontrés par l'école. À l'époque, tous les nouveaux mixed bands étaient formés lors des camps de vacances qu'organisait l'école. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas car la plupart de nos activités ont lieu dans la ville, ici à Mitrovica.
Au Kosovo, Mitrovica est souvent présenté comme l'archétype de la ville divisée, coupée en deux entre Serbes et Albanais. Pourtant, depuis la fin de la guerre il y a 20 ans, de nombreux projets ont tenté de réunir les différentes communautés. Maria Perovic travaille pour la Maison de l'Europe de Mitrovica.
Concernant la jeunesse, la Rock School est sûrement l'un des projets à long terme qui a le mieux marché, parce qu'ils sont actifs depuis des années. Ils ont beaucoup d'étudiants, ils enregistrent leurs chansons, ils font des concerts ensemble. Donc en ce sens, je pense que c'est un projet qui a réussi.
La Maison de l'Europe où travaille Maria est située tout près du pont qui relie les deux parties de la ville. L'ambiance y est plutôt détendue, mais la présence d'une patrouille de l'OTAN rappelle que le conflit entre la Serbie et le Kosovo n'est toujours pas réglé.
Nous sommes au point de séparation et ce lieu, dans le passé, quand j'étais enfant, a été le théâtre de tant de conflits, de tant de violences. Mais maintenant, on voit que c'est paisible, il n'y a pas de conflit. Maintenant, on voit là tous ces gens qui vont d'un côté et de l'autre. La plupart, ce sont des Serbes qui vont aller faire leurs courses là où les Albanais ont tous leurs magasins.
Non, on parle tous anglais, on communique en anglais, on écrit nos chansons en anglais, on vit en anglais.
Des fois, j'oublie des mots en serbe, parce que j'utilise beaucoup l'anglais, vous savez. Mais oui, c'est vraiment cool que l'on ait une langue en commun, une langue pour se parler.
L'anglais pour se parler quand on habite le Kosovo. Baton est albanais du sud de Mitrovica et Jelena, serbe de la partie nord. Ils jouent tous les deux au sein du groupe de pop-rock Electra Heart. Mais encore aujourd'hui, le choix de Jelena de jouer avec des Albanais ne fait pas l'unanimité.
Pas vraiment des amis proches, mais certaines personnes ont vu quand je postais des chansons de mes groupes mixtes sur Facebook et ils m'ont envoyé des messages en disant que j'étais une traître et tout ça. Mais ils ne me touchent pas, ce ne sont pas des amis proches et je ne leur porte pas trop d'attention.
Onze ans après la déclaration d'indépendance du Kosovo, les négociations avec la Serbie sont au point mort. Les projets qui rassemblent Serbes et Albanais, comme la Rock School de Mitrovica, restent rares. Pour Maria Perovic, les 80 000 habitants de Mitrovica en ont assez de ces postures politiques qui polluent le quotidien des citoyens du Kosovo.
Je pense que la plupart des gens veulent que ça s'arrête. Ils veulent que les choses soient résolues. Les politiciens, par contre, n'aident pas, pas du tout. Ils sont les seuls qui tirent quelque chose de ce conflit et de nous faire haïr les uns les autres. Autrement, je pense que les gens en ont ras-le-bol. Aucun Serbe, aucun Albanais n'est plus intéressé à se battre. C'est ce que je pense. Bien sûr, il y a toujours des têtes brûlées. Je ne peux pas influencer les nationalistes et les têtes brûlées. Malheureusement, il y en a partout.
Le résultat des élections de ce dimanche 6 octobre sera déterminant pour la reprise ou non d'un dialogue entre Pristina et Belgrade. Pourtant, ce dialogue a été l'un des grands absents de la campagne électorale. Chanter les louanges de la réconciliation, ce n'est pas encore au programme de la classe politique du Kosovo. C'est en revanche bien au programme de la Rock School de Mitrovica.
Reportage de Louis Seyé à Mitrovica pour Accent d'Europe. Qu'elles ne peuvent pas se payer tampons ou serviettes, certaines jeunes filles, certaines jeunes femmes, ratent les cours au collège ou à l'université quand elles ont leurs règles. C'est ce qu'on appelle la précarité menstruelle. Bien consciente du problème, l'Écosse a été la première à réagir et à légiférer, Marie Billon.
L'Écosse a ouvert la voie. C'est elle qui, à l'été 2018, est devenue la première nation au monde à proposer gratuitement tampons et serviettes dans les établissements scolaires. L'équivalent de 5 millions d'euros ont été investis dans ce projet. Avant ça, l'ONG Plan International estimait que 45% des jeunes écossaises avaient dû, à un moment donné, utiliser des chaussettes ou bien des journaux parce qu'elles n'avaient pas les moyens d'acheter les produits adéquats. Une autre étude récente, effectuée par Freedom for Girls, estime que plus d'un quart des jeunes filles et femmes britanniques ont raté un jour d'école ou de travail pour les mêmes raisons. Le gouvernement gallois a suivi l'exemple écossais au printemps 2019 et a investi près de 2,5 millions d'euros pour distribuer ces produits gratuitement dans les écoles, collèges et lycées. Peu de temps après, l'Angleterre a fait de même. Parce que les jeunes filles ne sont pas les seules à souffrir de cette pauvreté menstruelle. Le gouvernement britannique a aussi lancé au printemps un groupe de travail destiné à comprendre les causes du problème et à proposer des solutions à toutes les femmes afin de l'éradiquer d'ici à 2030. Aujourd'hui, les produits sanitaires sont considérés au Royaume-Uni comme des articles de luxe non essentiels, taxés à 5%. Une femme dépense l'équivalent de 5000 euros durant sa vie pour se procurer ces produits hygiéniques. Le système de santé étant décentralisée, les trois nations britanniques ont chacune de leur côté annoncé que les produits sanitaires seront gratuitement distribués dans les hôpitaux. Mais aussi, un comté de l'est de l'Écosse, le North Ayrshire, a décidé de mettre des produits hygiéniques à disposition dans tous les bâtiments publics, des mairies aux bibliothèques. Le gouvernement d'Holyrood encourage par ailleurs les entreprises à proposer gratuitement tampons et serviettes à leurs employés. Toutes ces avancées ont été en partie réalisées grâce à l'activisme de jeunes femmes sur les réseaux sociaux et aux initiatives de groupes de pression comme le Bloody Big Brunch, qui organise des brunchs que les clients ne paient pas avec de l'argent, mais avec des produits sanitaires.
En France, la mobilisation commence à peine. Les pouvoirs publics réfléchissent pour l'instant à expérimenter la gratuité des protections hygiéniques dans des lieux collectifs. Les associations, elles, organisent déjà des distributions gratuites. À l'Université de Lille, dans le nord de la France, il y a eu une première distribution en début d'année. L'opération a été renouvelée pour la rentrée. C'est un reportage de Lise Verbeck.
Dans le hall de l'un des bâtiments de la Fac de sciences humaines de Lille 3, parmi les stands dédiés aux nouveaux étudiants, l'un d'eux attire le regard sur la table des dizaines et des dizaines de paquets de protection périodique sans tasse.
Alors, tu mets quelle couleur ?
Chaque étudiante reçoit un paquet, 70 000 en tout ont été distribués. Un beau coup de pouce pour Ludivine, cette étudiante a un budget mensuel de 500 euros. Une fois payé son loyer, il lui reste 150 euros. La précarité menstruelle, elle connaît.
On a quand même une règle une fois par mois, à l'année ça fait quand même un budget. Quoi. Donc 2 euros plus 2 euros plus 2 euros, au final ça reste une dépense. Donc c'est pas comme si on avait le choix. Quoi.
Iman et Justine sont tombées sur le stand par hasard et elles sont agréablement surprises par une telle initiative. Elles repartent avec un paquet chacune, ce qui permet d'anticiper le mois d'octobre.
Si j'achète ça, je me restreins sur quelque chose d'autre.
Une femme dans sa vie, elle a pas ses règles qu'une seule fois, donc forcément c'est un budget. Puis il y a tout ce qui est les médicaments pour la douleur, etc. Une femme en moyenne dans sa vie, elle dépense beaucoup d'argent.
Le coût d'un paquet de protection menstruelle en France a choqué Carlotta et Virginia, deux étudiantes italiennes qui étudient via le système d'échange Erasmus à Lille.
Je pense que ça devrait être gratuit, mais c'est bien que la fac nous en donne. Ici en France, les protections sont très chères, plus qu'en Italie.
Un paquet comme celui que j'ai en Italie, c'est 3 euros. Ici, en France, c'est 5 ou 6 euros. L'année dernière, en Italie, il y a eu beaucoup de manifestations contre une décision du gouvernement qui voulait taxer les tampons. Une grosse association de défense de la femme, Nonne Una Di Meno, prévoit de nouvelles manifestations à ce sujet en octobre.
C'est Sandrine Rousseau, responsable de la vie étudiante et de l'égalité femmes-hommes à l'Université de Lille, Belgique qui est à l'origine de cette distribution. Une manière pour elle de briser le tabou autour des règles et de la précarité menstruelle.
Ne pas avoir de serviette, ça peut vouloir dire ne pas venir en cours. Ça peut vouloir dire tout simplement ne pas accepter d'aller au tableau si un prof vous interroge au tableau parce qu'on a peur d'avoir une tâche. Donc pour moi, il n'y a même pas de sujet. Il faut que les femmes qui viennent à l'université soient sûres qu'elles puissent passer au tableau si elles sont interrogées exactement comme n'importe quel homme, qu'elles puissent venir tous les jours de leur semaine, et puis qu'elles n'aient pas une difficulté financière telle qu'elles se posent la question d'acheter un livre, par exemple, ou d'acheter un paquet de serviettes. Enfin, pour moi, c'est évident qu'il faut acheter le livre. Je me dis que c'est incroyable le tabou qu'il y a autour des règles pour qu'on en arrive à ce qu'en 2019, pour la première fois, une université propose des protections périodiques. C'est incroyable.
Il n'y a pas que les étudiantes touchées par cette précarité. Les femmes sans abri, les migrantes y sont très souvent confrontées. L'agence du don en nature, dont fait partie Mireille Debout pour la section nordiste, est chargée de collecter auprès des entreprises des serviettes hygiéniques et les redistribuer aux associations.
C'est un gros problème dont elles n'osent presque pas parler par dignité, mais on imagine qu'elles vont dans les toilettes publiques, les toilettes des cafés, pour se protéger avec du papier hygiénique, des chiffons. Et là, c'est vraiment un grand soulagement pour ces personnes qui en ont besoin, et comme toutes les femmes.
Ça rajoute à la précarité ?
Oui. Oui, et jusqu'à maintenant, ça n'était pas pris en compte et on espère qu'on y viendra.
En France, 8% des femmes ne disposent pas de suffisamment de moyens pour se procurer tampons et serviettes hygiéniques.
En Italie, on ne parle pas beaucoup des règles dans l'espace public, ce qui permet à des pratiques d'un autre âge de perdurer. Les explications de Cécile Debarge.
Lorsqu'on parle des règles en Italie, certaines croyances ont la vie dure. Pour en prendre la mesure, il suffit de faire un tour sur le blog du Signor Distruggere, littéralement le Seigneur, détruire. Depuis l'automne 2011, ce blogueur publie des captures d'écran de forums souvent privés de mamans italiennes qui se renomment souvent elles-mêmes les maminées, les petites mamans ou les panchine, qui dérivent du terme pancia, le ventre de la femme enceinte. Le contenu qu'il en tire est surprenant, voire pire. On découvre une mère qui ne comprend pas la colère de son adolescente lorsqu'elle a su que toute la famille avait été prévenue qu'elle avait eu ses premières règles. Une autre proposait à la vente des pendentifs argentés en forme de serviette hygiénique ou de tampons à offrir à sa fille pour son premier cycle. Et plus désarçonnant encore, certaines demandent que les pendentifs en forme de tampons hygiéniques soient retirés de la vente, car les filles vertueuses ne s'introduisent rien dans le vagin. D'autres préfèrent ne pas se laver pendant leur cycle menstruel pour être sûres de ne pas bloquer le suivant. Elles préfèrent ne pas toucher les plantes pour ne pas les faire mourir. Une autre explique que les règles ne sont rien d'autre qu'un avortement tous les mois parce qu'un œuf perdu est un enfant perdu. La palme d'or revient toutefois à cette mère qui poste sur un groupe la photo d'un écrin de bois dans lequel elle consigne en réalité les protections hygiéniques usagées de sa fille qu'elle a récupérées pour lui faire une surprise. Son petit mot d'accompagnement explique la théorie suivante. Ma chérie, nous les femmes, nous perdons un enfant tous les mois. Cet enfant est innocent, il n'y pouvait rien, mais c'est comme ça. Et je te les ai laissés dans cet écrin de l'amour pour que tu puisses parler avec eux et leur promettre qu'un jour, tu seras une bonne mère. Alors bien sûr, ces mères sont une minorité. Il faut préciser qu'un enfant de 6 ans aura pour ses mamans 117 mois et que la panacée pour nombre d'entre elles est de continuer à l'allaiter jusqu'à cet âge, voire de congeler leur lait maternel pendant des années pour ensuite le cuisiner. Elles ne voient pas non plus de problème à ce que leurs enfants défèquent sur leur peau au restaurant et se font une douche vaginale après les rapports sexuels en guise de contraceptif. Le plus inquiétant toutefois, c'est que systématiquement les commentaires se substituent à l'avis des médecins. Celles qui n'ont pas eu d'enfants sont-elles invitées à se taire et à se désabonner du groupe ? Une conception de la féminité et de la maternité bien loin d'aider à la normalisation du discours public pourtant si nécessaire en Italie sur la condition féminine et l'intimité des femmes.
Une femme a été retrouvée poignardée en plein cœur ce mardi matin à Marly-le-Roi, en région parisienne. Son ex-conjoint a tenté de se suicider. Il s'agirait du 111e féminicide en France depuis le début de l'année. Si le pays est particulièrement concerné par ces meurtres, les autorités françaises sont seulement en train d'élaborer une politique de prévention. Dans les pays voisins, en Italie et surtout en Espagne, des mesures ont été prises bien plus tôt. On en parle avec Daniel Vigneron du site MyEurope. Info. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
Ce débat sur les féminicides, il n'est pas récent, Daniel.
Ce qui est nouveau, c'est la prise de conscience du nombre et de l'intensité de toutes les formes de violence dont sont victimes les femmes en tant que telles. Cette notion même de féminicide est récente puisqu'elle caractérise non pas le meurtre de toute personne de sexe féminin, mais spécifiquement un crime de nature machiste perpétré sur une femme en raison même de sa condition de femme. La plupart du temps, c'est le résultat d'un continuum de violence exercé par un conjoint ou un parent, et cela n'a rien à voir avec des crimes crapuleux dictés par l'intérêt.
Quand on parle du terme de féminicide, est-ce qu'il est reconnu en droit français ?
Si l'ethnie, la religion ou l'orientation sexuelle sont des facteurs aggravants pour un homicide, ce n'est pas le cas pour le genre féminin de la victime. Le caractère sexiste n'alourdissant les sanctions que pour les simples délits. Cela dit, on revient de très loin, il y a moins de 50 ans, la nature passionnelle d'un crime, essentiellement le meurtre de sa conjointe par un homme, était considérée comme une excuse atténuante de peine, et il a fallu attendre 1994 pour que le crime conjugal soit au contraire un facteur aggravant.
Dans les pays voisins, est-ce qu'on est face à la même réalité juridique ?
Sans rentrer dans des détails fastidieux, le féminicide n'est guère non plus une notion juridique dans les pays du nord de l'Europe. En revanche, il est spécifiquement mentionné dans les législations italiennes et espagnoles, deux pays qui, en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et les féminicides, sont en pointe, en particulier l'Espagne.
Ce sont pourtant des sociétés très patriarcales, toujours avec une tradition machiste, vous diront certains.
On ne parle pas là d'égalité homme-femme. Mais en Italie comme en Espagne, les femmes sont moins nombreuses qu'ailleurs en Europe à mourir sous les coups d'un partenaire ou d'un proche. Selon les chiffres d'Eurostat, on compte par million d'habitants moins de 3 crimes de ce type en Espagne et en Italie. On en dénombre en revanche 5 en France, 5,6 en Allemagne et près de 10 en Hongrie. Et ce nombre dépasse 7 en Finlande. Il n'y a malheureusement pas de données sur les féminicides en provenance de Suède ou du Danemark, mais il faut rappeler que la Scandinavie dans son ensemble est assez mal placée par l'Agence européenne pour les droits fondamentaux en matière de violences faites aux femmes.
Et le Sud, Daniel, est-ce qu'il mène à cet égard des politiques volontaristes ?
Absolument. Après un plan d'action contre les violences sexuelles et de genre adopté en 2015... L'Italie vient de se doter d'un code rouge qui prévoit de nombreuses mesures instaurant notamment une infraction pénale spécifique pour violence de genre, une formation spéciale pour le personnel policier, une accélération des procédures pénales et un alourdissement des peines pour les coupables ou pour ceux qui ne respectent pas les injonctions d'éloignement de leurs potentielles victimes. En 2018 et en 2019, l'Italie a consacré près de 35 millions d'euros par an à ces politiques.
Oui, ce sont des sommes très importantes, la France en est très loin.
Il serait cruel de rappeler que le fonds d'assistance aux associations d'aide aux victimes de violences conjugales vient pour l'instant d'être somptueusement doté d'1 million d'euros en France. Et ce montant paraît totalement dérisoire par rapport aux milliards d'euros que le gouvernement espagnol consacre pour la période 2017-2022 à la mise en place des 200 mesures du pacte d'État contre la violence sexiste. Les tribunaux espagnols ont émis en 2017 29 000 ordonnances de protection. Cette année-là, en France, 1300 décisions de ce type étaient prises seulement.
La France, les pays du Sud, mais ailleurs, comment ça se passe ?
Oui, même si c'est moins spectaculaire qu'au Sud. Dès 2010, le Royaume-Uni a lancé un plan contre la violence de genre doté sur 4 ans de 40 millions de livres sterling pour financer services spéciaux et soutien et formation des policiers. En Allemagne, un plan d'action fédéral de 130 mesures a été adopté et une hotline multilingue de soutien aux victimes fonctionne depuis 2013. En fait, si l'on excepte les pays d'Europe de l'Est, la France apparaît jusqu'à maintenant comme un très mauvais élève européen en matière de lutte contre les violences sexistes. Et, sauf surprise, elle risque de ne pas combler de sitôt son retard, même si nos responsables sont fascinés par le modèle espagnol.
À bientôt, Daniel.
À bientôt, Juliette.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous réécoutez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur les réseaux sociaux. À bientôt.